On accueille maintenant Dr. Robert Faed pour parler justement d'AVC. C'est un grand spécialiste neuroradiologue d'intervention à l'hôpital d'Ottawa, neurologue bien sûr. Et bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir pris ce temps. Je sais que vous êtes très, très occupé, là, évidemment. Alors, vous êtes finalement quelqu'un qui avait développé des techniques particulières aussi. On parle de thrombectomie, là, pour justement aider à réduire les impacts d'un AVC. Alors, parlez-nous d'abord de ce que c'est qu'un AVC.
Alors, AVC, ça veut dire accident vasculaire cérébral. On peut aussi dire ACV, accident cérébral vasculaire. C'est un groupe de maladies qui se caractérise par un problème en lien avec les vaisseaux du cerveau. C'est le plus souvent une artère du cerveau qui se bouche à cause d'un caillot sanguin. Et c'est plus rarement une artère qui se rompt, qui saigne et qui cause une hémorragie. Ça, ce sont les deux principaux sous-types d'AVC. Ce sont des maladies brutales qui apparaissent en quelques minutes, inattendues. La minute d'avant, la victime d'un AVC va bien. La minute d'après, elle souffre de symptômes sévères. Ce sont des maladies qui sont urgentes, où chaque minute compte, parce que chaque minute qui passe, quand quelqu'un fait un AVC sans traitement, c'est une chance accrue de décéder ou de finir avec des séquelles permanentes.
C'est
donc
ça.
Ce sont des urgences médicales absolues.
Alors vraiment, c'est parmi les principales causes de décès et d'incapacité. Il y a différents types d'AVC, Dr. Faed.
Exactement. Donc le principal, l'AVC ou l'ACV ischémique, on dit aussi infarctus cérébral, c'est lorsqu'un caillot de sang est ancré quelque part dans le corps, ça peut venir des artères du cœur ou d'ailleurs, se retrouve bloqué dans une artère du cerveau, ce qui coupe la circulation de sang au cerveau. Et le cerveau, comme n'importe quel organe, a besoin de sang pour vivre et fonctionner. Et cet arrêt brutal d'afflux sanguin cause des dégâts immédiats et des dégâts qui augmentent et s'intensifient après chaque minute. Ou alors l'AVC hémorragique, qui est une rupture d'une artère dans le cerveau, souvent chez des patients qui ont une pression artérielle mal contrôlée ou alors un anévrisme ou une malformation des vaisseaux qui n'étaient pas connus et qui entraînent une hémorragie dans le cerveau. La finalité étant malheureusement la même, c'est-à-dire des dégâts rapides et d'aggravation rapide dans le cerveau qu'il faut traiter le plus vite possible.
Ouais. Alors maintenant, la grande question que tout le monde se pose toujours, c'est comment prévenir un AVC?
Alors, il y a plusieurs choses très faciles à faire. Il y a des mesures qui sont du bon sens et qui préviennent d'autres maladies aussi. La première chose, c'est qu'il ne faut pas fumer. La cigarette est l'ennemi numéro un du cerveau. La deuxième, c'est qu'il faut prendre soin de son corps et de sa pression artérielle. Il faut mesurer sa pression artérielle, aller voir le médecin pour vérifier sa pression artérielle et la traiter si besoin. Il faut de la même manière dépister et traiter le diabète, dépister et traiter le cholestérol, maintenir une bonne activité physique, maintenir un poids physiologique et limiter sa consommation d'alcool. En faisant tout ce que je viens de vous dire, on peut très fortement diminuer le risque d'AVC.
Déjà
cela
là.
Dit, l'AVC peut malheureusement survenir malgré tout cela et chez n'importe qui. Il n'y a pas d'âge pour faire un AVC. Le risque d'AVC augmente avec l'âge, mais on peut être malheureusement très jeune et en bonne santé et faire un AVC malgré tout. Donc en cas de doute, si on pense que quelqu'un fait un AVC, même si cette personne est jeune et en parfaite santé et n'a aucun des facteurs de risque que j'ai cités, il faut appeler le 911 le plus vite possible.
Ouais, j'ai ma co-animatrice justement qui a une question pour vous.
Docteur Faed, je me pose la question, on parle de plus en plus des dégâts causés en fait par le stress. Est-ce que le stress joue un rôle dans les AVC? Parce que vous avez parlé d'alcool, oui, l'alcool, mais le stress?
Alors, le stress joue un rôle ne serait-ce que par le fait que le stress augmente la pression artérielle. Les gens stressés ont une pression artérielle plus élevée. Et une pression artérielle trop élevée augmente le risque d'AVC, peu importe le sous-type d'AVC d'ailleurs. Il y a d'autres chemins un peu plus indirects entre le stress et le risque de l'AVC. Le stress est souvent associé à une moins bonne hygiène de vie, une moins bonne alimentation, une consommation excessive d'alcool ou de cigarettes et une moins bonne activité physique. Maintenant, est-ce que le stress en lui-même augmente le risque d'AVC ou d'infarctus du myocarde? C'est difficile à prouver par les études, parce que le stress est par définition difficile à mesurer. C'est une croyance qui est partagée par bien des scientifiques et des non-scientifiques. Mais de toute façon, de par tout ce que je viens de vous dire par mécanisme indirect, oui, le stress, à travers d'autres conséquences, augmente le risque de maladies cardiovasculaires.
Alors, vous avez développé, bien sûr, des techniques. D'abord, vous avez longuement étudié, vous êtes neurologue, bon, et puis on est bien chanceux de vous avoir. Vous êtes venu étudier à Montréal, vous êtes né à Paris, vos parents étaient d'origine syrienne en passant. Alors, on est très chanceux, finalement, parce que vous faites des recherches constamment aussi. Et puis, en fait, vous avez développé des techniques aussi pour réduire, évidemment, les risques de séquelles ou de mortalité,
oui,
même.
Pas moi tout seul, bien sûr, hein, la recherche, c'est toujours un travail d'équipe, mais à l'échelle locale, c'est-à-dire le Québec, l'Ontario et à l'échelle nationale canadienne, nos équipes de recherche ont développé énormément de thérapies qui ont changé la face de l'AVC. Nous savons depuis quelques années que en plus de donner le classique médicament qui dissout les caillots, que l'on donne typiquement en intraveineux, il existe une technique qui s'appelle la thrombectomie, qui consiste à naviguer des petits outils à l'intérieur des vaisseaux. C'est de la microchirurgie, hein. On ne fait pas de trou dans la tête, on ne fait pas d'incision. Tout se passe par une petite aiguille qu'on met dans la jambe et on peut naviguer à l'intérieur du cerveau. Et avec différents outils, on peut capturer le caillot lorsqu'il y a un caillot et le retirer nous-mêmes. Ça s'appelle la thrombectomie. Ça a été démontré au travers de multiples études, dont une étude canadienne. Et ça a complètement changé la face de l'AVC parce que on sait que si on réussit à faire cette technique assez vite, on peut très substantiellement diminuer le risque de décès et de séquelles. Nous avons d'autres thérapies qui sont encore expérimentales, qui sont à l'étude, qui sont en train d'être recherchées partout dans le Canada. Toutes ces études sont très lourdement soutenues et financées par la Fondation Cœur plus AVC. Je rappelle, c'est une fondation qui tient entre autres sur les donations. Et donc les dons et les donations sont extrêmement importants pour perdurer dans la recherche et continuer à améliorer la prise en charge de ces maladies.
Et en fait, bon, vous êtes relié à l'hôpital d'Ottawa, j'imagine. Bon, alors ces dons peuvent être acheminés via l'hôpital d'Ottawa?
Alors, les dons déjà à l'échelle nationale peuvent être faits à la Fondation Cœur et AVC, qui redistribuera les dons comme il se doit, notamment pour la recherche. Les dons à vos hôpitaux locaux, peu importe la province, et y compris l'hôpital d'Ottawa, sont bien sûr les bienvenus. Et ils sont également utilisés localement pour la recherche locale. Je pense que tous les dons sont les bienvenus parce que tous les dons seront bien utilisés et la recherche d'aujourd'hui est ce qui permet de changer le soin de demain. Donc c'est très important de continuer à soutenir la recherche, oui.
Bon, c'est ça. Puis vous avez, bon, avec ces nouvelles techniques, ces innovations-là, finalement, vous arrivez à retirer des caillots de plus en plus petits, des patients plus âgés. Comme vous dites, ça touche toutes les catégories d'âge. Ça peut être des jeunes qui font des AVC.
Oui, on n'est jamais trop jeune pour faire un AVC, malheureusement. Donc, encore une fois, j'insiste, si quelqu'un, vous pensez, est en train de faire un AVC, il n'y a pas d'âge pour faire un AVC, il n'y a pas de genre pour faire un AVC, c'est pas plus les hommes ou plus les femmes, il faut appeler 911 de toute façon. Et les techniques progressent, on est capable de capturer des caillots de plus en plus gros, de plus en plus petits, de plus en plus difficiles à attraper, on a des outils qui marchent de mieux en mieux, donc on progresse sur tous les fronts. On est de mieux en mieux équipés pour soigner les gens, mais il faut continuer l'effort, il faut poursuivre l'effort.
Oui, c'est ça. Mais vous disiez que, bon, ça, qu'importe, bon, que ce soit les femmes, les hommes, j'ai lu quand même que les femmes pouvaient en mourir davantage. Est-ce que c'est vrai?
Alors, à l'heure actuelle, il y a encore des biais de genre. Les femmes sont sous-diagnostiquées et sous-traitées pour les maladies cardiovasculaires, notamment les AVC. Elles ont tendance à être moins rapidement reconnues comme étant victimes d'AVC et donc être prises en charge plus tardivement, ce qui affecte leur pronostic. Elles sont aussi sous-représentées dans les études. Les études qui étudient l'AVC et les traitements des AVC incluent plus volontiers des hommes que des femmes. Ce sont des biais sur lesquels il y a du progrès. On est en train de progresser, il faut continuer les efforts. Mais oui, vous avez raison, actuellement, les femmes sont moins bien représentées et prises en charge.
D'autres phénomènes, comme par exemple, on parle des changements climatiques. En fait, les températures extrêmes pourraient peut-être avoir un rôle aussi dans les AVC. Qu'en pensez-vous?
Alors, pour les AVC, ça n'est pas encore prouvé. C'est définitivement à l'étude que les changements de température, de climat, la pollution également, puissent jouer un rôle. Ça n'est pas aussi solidement soutenu par la science que les facteurs de risque que j'ai évalués. Donc pour l'instant, ce que je peux recommander de médical, c'est de prendre en charge les facteurs de risque dont j'ai parlé. Le changement climatique et la pollution sont encore à l'étude actuellement.
D'accord. Ça, alors, on ne peut pas quand même émettre trop d'hypothèses là-dessus, mais quand même, ça, c'est à explorer. Donc, température extrême, que ce soit le froid ou le chaud, là, trop grande chaleur, ça peut avoir peut-être une incidence, mais ça, c'est à vérifier. Maintenant, il y a aussi une thérapie par cellules souches qui serait peut-être une solution également. Enfin, je ne sais pas si c'est très avancé de ce côté-là.
Alors, ça, c'est encore expérimental. Peut-être que ça montrera son intérêt à l'avenir, peut-être pas. C'est encore à l'étude, ça ne fait pas partie de l'arsenal thérapeutique actuel. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons recommander. C'est encore expérimental. Et une fois de plus, la recherche nous donnera les réponses. Et pour la recherche, il faut de l'argent et pour ça, il faut des dons.
Eh, c'est ça. Bon, c'est le nerf de la guerre, Monsieur Fay.
Comme toujours.
Oui, c'est ça. Alors, ben, puis bien sûr, des médicaments neuroprotecteurs qui peuvent être administrés dans l'ambulance ou enfin le plus tôt possible. Ça, c'est sûr qu'on en a déjà, mais ça pourrait avoir des médicaments encore qui pourraient améliorer la situation grandement.
On a des mesures médicamenteuses et non médicamenteuses qui permettent de limiter les dégâts de l'AVC le temps qu'on réussisse à administrer le bon traitement à l'hôpital. Il y a encore beaucoup de pistes très prometteuses qui sont encore expérimentales. Donc, comme toujours, j'aime répéter, il faut faire confiance à la recherche et il faut soutenir la recherche.
Oui, c'est ça. Et puis, écoutez, il y a aussi, bon, tout à l'heure, on a parlé avec Camille Laforêt de l'organisme Artère qui accompagne les gens qui ont subi des AVC, mais aussi les proches aidants. Mais on parle aussi de la campagne VITE, c'est-à-dire VITE, là, c'est un acronyme, bien sûr, l'acronyme, alors V pour le visage, les symptômes là qu'on doit reconnaître. Parlez-nous-en.
Alors, l'acronyme VITE peut littéralement sauver des vies. Il y a une campagne de sensibilisation et d'éducation de la population. Il faut que tout le monde réussisse à connaître ces signes. Il y a du progrès, il y a de plus en plus de gens qui les connaissent, mais merci de me donner l'opportunité de les expliquer sur votre antenne. C'est très important. VITE, c'est 4 lettres, et si vous retenez ce qu'elle veut dire, vous allez pouvoir sauver des vies. Ce sont les symptômes qui doivent vous faire penser à un AVC. Si quelqu'un a l'un des symptômes suivants, il faut appeler 911. Le V de VITE, c'est pour visage. Si quelqu'un a d'un coup le visage affaissé d'un côté, qui a du mal à bouger, qui fait que la personne a du mal à parler, c'est un symptôme classique d'AVC. Le I, c'est pour inertie d'un membre. S'il y a un côté du corps qui brutalement est paralysé, la jambe et ou le bras, c'est un test très simple. Vous demandez à un patient, à quelqu'un que vous pensez qu'il fait un AVC, de lever les deux bras et de lever les deux jambes, et vous allez voir qu'il y a un côté qui est plus faible, voire paralysé. Ça, c'est un symptôme classique d'AVC. Le T, c'est trouble de la parole, trouble de l'élocution. Si quelqu'un brutalement a du mal à parler ou a du mal à articuler ou a du mal à comprendre ou dit des phrases qui ne font aucun sens, il faut penser à un AVC. Et le E, c'est extrême urgence. C'est pour vous rappeler qu'il faut appeler 911 le plus vite possible.
Oui,
il ne faut pas attendre ne serait-ce que 5 minutes de voir si les symptômes vont rentrer dans l'ordre. D'ailleurs, même s'ils rentrent dans l'ordre, il faut appeler 911 parce que ce n'est pas parce que les symptômes s'améliorent que le patient n'est plus en train de faire un AVC. Donc, vous retenez ces 4 lettres-là. Et vous vous rappelez, s'il vous plaît, qu'il n'y a pas d'âge pour faire un AVC, que n'importe quel homme, n'importe quelle femme, n'importe qui peut faire un AVC, et vous sauverez littéralement des vies en suivant ces consignes.
Docteur Robert Fahed, ça a été vraiment un plaisir. Merci d'avoir encore une fois pris ce temps précieux pour nous parler de tout cela. Alors, le mois de sensibilisation aux AVC, évidemment, on va tâcher d'en reparler. Mais en tout cas, merci d'avoir pris ce temps et puis bon succès dans toutes vos démarches et dans vos recherches.
Merci, bonne journée, au revoir.
Merci.